Bonjour. C'est toi Géraldine, quelle garderie? Merci Géraldine. Bonne garderie les enfants. Contrôle H, Aïna. Contrôle H. Non, toujours pas? Pas contrôle H? Non, non, pas grave. C'est pas grave, vous aurez une barre latérale. Ah, voilà, c'est parfait. Merci, Aïna. Nous vivons une époque absolument passionnante d'un point de vue sociologique. Comme à chaque fois qu'il y a une crise, comme à chaque fois qu'il y a des changements de société majeurs et une liberté d'expression exacerbée, nous assistons à des réactions passionnées, des revendications tonitruantes et des débats enflammés. La vieille revendication qui est plus que jamais d'actualité, c'est la liberté. Nous voulons être libres. C'est le slogan de base. Libre de ne pas être vacciné. C'était le slogan d'hier. Libre de nous marier et d'avoir des enfants. C'est le slogan revendication homosexuelle des années 2010. Libre d'être qui nous voulons. Slogan des transsexuels des années 20, en ce moment. Libre de faire ce que nous voulons de notre corps. Slogan féministe des années 60, en pleine libération sexuelle. Libre de croire ce que nous voulons. Slogan du début du XXe siècle. Libre de choisir nous-mêmes notre destin. Slogan républicain du XIXe siècle. Selon toutes ces revendications, la société, l'État, des instances secrètes empêchent certains d'être libres. Et ceux qui estiment ne pas être libres veulent cette liberté. Cette liberté d'être eux-mêmes, cette liberté de choisir ce qui est bon pour eux. On va voir ce que Jésus, justement, dit de cette liberté. Quel est le point de vue du Seigneur sur cette liberté qui est revendiquée depuis des siècles et des siècles dans un passage qui est un passage de l'évangile de Jean au chapitre 8 à partir du verset... Oups, il faut que ça s'allume... Je ne sais plus. J'ai plus les versets. Ouh là là. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai mon truc qui vient de faire un truc bizarre. Je vais me mettre sur mon application de Bible. Ça ira mieux, je pense. Ouais. En fait, je pense que je vais prendre une Bible à l'ancienne. Il m'a effacé les versets. C'est quoi, c'est bizarre. Je vais lire comme ça. Hein, ça vous va si je lis un peu comme si j'étais au bar? Ça va? Non, c'est bon. D'accord. Voilà. Ça, on est bien. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille, un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham, pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. » Notre père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi ? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais, répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez, car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis ? Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité, c'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute ? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Jusqu'ici, notre lecture de la parole de Dieu. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. C'est une grande info pour ceux qui écoutent Jésus. Quand Jésus leur dit « Vous n'êtes pas libre », ils répondent « Nous n'avons jamais été esclaves de personne ». C'est là le premier point. Ça peut paraître bizarre, car quand ces Juifs affirment qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, ils savent pertinemment que 12 siècles auparavant, ils ont été esclaves en Égypte. Puis que 6 siècles plus tard, ils ont été déportés à Babylone. Puis qu'après leur retour de Babylone, ils ont toujours plus ou moins été sous un protectorat étranger et donc jamais vraiment libres. Au moment de cette conversation avec Jésus, ce sont les Romains qui sont les maîtres en Palestine. Quand les Juifs disent qu'ils n'ont jamais été esclaves de personne, on peut donc en déduire qu'ils voient une liberté morale, spirituelle, ils ne voient pas une liberté territoriale. Mais là encore, dans l'histoire d'Israël, l'idolâtrie a très souvent régné en maître dans cette histoire. Ainsi que l'exploitation des plus faibles qui a régné tout autant que l'idolâtrie dans l'histoire d'Israël. C'est donc un viol des deux principaux commandements et donc un esclavage spirituel qui pourrait résumer l'histoire d'Israël. On peut donc penser que les interlocuteurs de Jésus s'identifient à ceux de leur histoire qui sont restés les plus fidèles à Dieu. C'est pour ça qu'ils font probablement référence à Abraham. D'où le statut aussi de fils de Dieu. Quand ils disent « Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu », ils estimaient que le fils unique de Dieu, c'était Israël. Israël, en tant que peuple, était le fils de Dieu. Le problème, c'est qu'on a un fils qui n'obéit pas beaucoup à son père. Et on voit que les interlocuteurs de Jésus se raccrochent aux branches. Et leur liberté est quand même très difficile à soutenir. C'est pourquoi Jésus leur dit « Votre père, c'est le diable ». Jésus douche les illusions de ses interlocuteurs en leur mettant sous les yeux la réalité qu'ils ne veulent pas voir. Ils sont des esclaves spirituels, des pécheurs esclaves du péché, des enfants du diable qui s'ignorent. La logique de Jésus est très simple et elle est vraiment implacable. Vous pouvez toujours clamer que vous êtes libre. Encore faudrait-il que vous arrêtiez de pécher. Si vous n'arrivez pas à arrêter de pécher, si vous êtes incapable d'avoir une vie qui honore vraiment Dieu, alors vous êtes esclave. Jésus décrit ici le conditionnement de base qui touche les humains dès le troisième chapitre de la Bible dans la Genèse. Le péché. Le péché imprègne notre caractère. Le péché imprègne notre comportement, nos pensées, nos décisions, nos réactions. Le péché nous imprègne totalement. Nos erreurs persistent. Nos défauts persistent. Nos problèmes et nos souffrances persistent. Notre péché persiste. Nous sommes esclaves du péché. Nous sommes tous conditionnés. Mais je peux aussi parler, à part cet esclavage du péché, je peux aussi parler de tous les autres conditionnements qui nous encadrent. Par exemple, si nous sommes vraiment libres, eh bien, volons. Volons. Eh bien non, en fait, on ne peut pas voler parce qu'en fait, il y a la gravité qui nous cloue au sol. Nous sommes conditionnés par la gravité qui nous empêche de voler. Nous ne sommes pas tout à fait libres, physiquement parlant. Il y a aussi notre culture qui nous encadre, qui fait qu'en fait nous ne sommes pas libres. Nous dépendons d'un territoire dans lequel nous habitons depuis plus ou moins longtemps, qui forge notre comportement, notre mode de vie, notre caractère, notre culture nationale, notre culture régionale, départementale, locale, notre culture sociale. Marx a très bien résumé la chose par rapport à cette culture sociale qui nous détermine, notre culture familiale. Beaucoup de ce que nous sommes dépend finalement de ce que nos parents nous ont transmis et de ce que nos grands-parents ont transmis à nos parents. Quand on regarde, puisqu'on parle d'Abraham dans notre passage, nous pouvons voir cette famille dysfonctionnelle d'Abraham et toutes les erreurs qui se répètent de génération en génération, notamment en faisant passer sa femme pour sa sœur, par exemple, ou en essayant de favoriser un des enfants pour qu'il soit l'héritier. On voit qu'il y a un héritage familial qui se transmet et qui n'est pas forcément toujours bon. Ce que nous sommes, nous n'avons pas choisi de l'être. Ce que nous sommes dépend de ce qui a été transmis. Notre caractère dépend en grande partie de ce que nous avons vu de nos parents. Que ce soit en imitant le caractère de nos parents ou en étant en réaction, justement, par rapport au caractère de nos parents. Mais en tout cas, ce que nous sommes, nous n'avons pas choisi de l'être. Nous ne sommes pas libres d'être qui nous sommes. Et je pourrais aussi parler de ce déterminisme biologique. Ce que nos neurones, ce que les neurosciences nous apprennent par rapport à notre personnalité peut être très troublant. Et on pourrait pousser le bouchon en disant que finalement, en fait, ce que nous sommes, c'est juste le produit de réactions chimiques qui se passent dans notre cerveau. Et nous ne choisissons jamais finalement d'être qui nous sommes. C'est notre cerveau qui détermine les choses pour des raisons qui nous sont plutôt troubles. Nos gènes, nos hormones conduisent notre vie. Certains poussent même le bouchon en disant qu'en fait, nous croyons aimer, mais en fait, nous n'aimons pas. Nous cherchons juste à nous reproduire. C'est uniquement nos gènes qui cherchent à se perpétuer et notre cerveau nous fait croire finalement que nous aimons une personne pour faire des bébés avec, mais en fait, c'est juste nos gènes qui veulent juste se reproduire et c'est une illusion qui s'impose à nous pour pouvoir perpétuer notre espèce comme la plupart des autres animaux. Nous ne sommes pas libres. À noter que le diable qui qui est l'instigateur du péché, qui est le maître du mensonge, se sert de tous ces déterminismes, de tous ces conditionnements pour nous faire chuter. Puisqu'il actionne des faiblesses que nous ne soupçonnons pas, et même des fois dont nous sommes fiers, pour nous tendre des pièges. Car si le péché se transmet génétiquement, on peut dire, il se transmet aussi très bien culturellement. Nous péchons sans nous en apercevoir. Nous péchons comme nos ancêtres ont péché. Nous reproduisons des choses finalement nous n'intellectualisons absolument jamais. C'est de l'ordre du réflexe. Si nous sommes si prévisibles que les professionnels du marketing savent avant nous ce que nous allons aimer et ce que nous allons acheter, nous sommes tellement prévisibles que les professionnels du marketing arrivent à faire ça, imaginez ce que le diable arrive à faire avec nos déterminismes. Nous sommes esclaves du péché, mais nous sommes encore plus esclaves que cela. Alors la question qu'on peut se poser, Aïna, c'est est-ce qu'on peut être libre en étant soi-même ? Est-ce qu'on peut être libre en étant soi-même ? Si nous sommes conditionnés à ce point, et si nous sommes mus par des mécanismes souvent complètement inconscients, eh bien cela vient relativiser nos décisions. Cela vient relativiser nos revendications. Et prenons certains exemples que j'ai cités en intro. Par exemple, je veux être libre de faire ce que je veux de mon corps. Je veux pouvoir choisir qui je suis, mon genre. Je veux choisir si je suis un homme, une femme, ou rien, ou les deux. Autrement dit, je veux être moi-même. Je veux être authentique. Et je veux que la société valide mes choix au nom de l'égalité. Voilà une des revendications qui sévit depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Mais la question est justement de savoir si on est libre quand il s'agit de se soumettre à ses propres pulsions, à ses propres tendances qu'on n'a pas choisies. Faire des choses qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. On est d'accord que ce n'est pas de la liberté. La liberté consisterait au contraire à évaluer les pulsions, les comportements, les modes de vie et à voir quelles sont leurs origines, d'une part, et aussi voir si leurs conséquences sont bonnes, d'autre part. Prendre du recul, finalement, sur les comportements. Alors, savoir si c'est bon par rapport à quelle référence, peut-être me direz-vous, et ça, on va voir tout à l'heure que Jésus a une réponse assez tranchée sur ce sujet. Mais avant cela, je pourrais répondre de la manière suivante à propos, par exemple, de la libération sexuelle. Quand l'origine d'un comportement ou d'un mode de vie est la convoitise, la consommation de l'autre, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de progrès, ni même de liberté. Et l'origine d'autres comportements, n'importe lesquels, peut-être par exemple la colère, la peur, le résultat d'un traumatisme. Et là encore, je suis assez persuadé qu'il y a un problème, que là on n'est pas non plus dans le cadre de la liberté, parce que l'origine de ce comportement montre en fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et aussi quand la conséquence de, par exemple, la libération sexuelle, je reviens dessus, donne du sexe sans amour, donne des cœurs brisés, donne des grossesses non désirées, des avortements traumatisants, des familles explosées, recomposées, rafistolées, des relations précaires, à durée déterminée. Je ne suis pas sûr, là encore, qu'on puisse dire que ce soit un très bon usage de la liberté. Est-ce qu'on peut revendiquer ce genre de liberté ? Deuxième exemple, pour ou contre le pass sanitaire. On traite des sujets d'actualité, vous avez vu. Je ne vais pas prendre position, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de sang sur les murs à la fin de cette prédication. Même si je pense qu'en fait, beaucoup sont d'accord, mais bref. Certains vont répondre, oui, il faut le pass sanitaire, parce qu'ils font confiance à la science et qu'ils veulent une sécurité maximale. D'autres se méfient du vaccin, parce qu'il n'a pas fait toutes ses preuves, et détestent aussi qu'on leur impose quelque chose. Et en fait, les deux positions, qui ont des arguments valables, il y a peut-être des arguments plus valables dans une position que dans une autre, mais qui ont toutes les deux des arguments valables, ces deux positions, eh bien, peuvent avoir une seule et même origine. La peur. La peur. Et je m'aperçois qu'en fait, souvent, l'origine des deux positions, c'est la peur. Peur des effets secondaires pour les uns, peur d'un nouveau confinement pour les autres. Et en fait, on peut se demander quand c'est la peur, quand c'est l'anxiété, voire la panique qui guide un choix, finalement, on peut dire qu'on est à l'opposé d'un libre choix. Quand on fait preuve d'une trop grande méfiance, qui peut aller jusqu'au complotisme, ou d'une trop grande confiance en la science, qui peut aller jusqu'au scientisme, c'est la science qui va nous sauver, on s'éloigne du libre choix. Un vrai, un véritable choix libre, si jamais il existait, consisterait là encore à prendre un maximum de hauteur, un maximum de recul, à peser plus ou moins objectivement le pour, le contre, prendre une décision en étant conscient de toutes les incertitudes et de toutes nos lacunes pour faire ce choix. Voilà ce que serait peut-être un libre choix, mais quelque chose qui prendrait quand même un petit peu de recul. Mais justement, pour rationaliser son choix, on se tourne vers des sources d'informations qui nous apportent la vérité. Et justement, c'est le second concept abordé par Jésus, c'est le concept de la vérité. Et c'est un peu ce que dit Jésus, vos vérités sont des mensonges. Et la première question que nous pouvons nous poser, c'est qui décide de ce qui est la vérité et de ce qui n'est pas la vérité ? C'est une question fondamentale depuis toujours. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'infos continues et des fake news, des informations fausses, on ne sait plus vers qui se tourner pour avoir une parole fiable. Cela crée un morcellement sans précédent de la société, car chacun va chercher les infos qui vont dans son sens, et la personne, une fois qu'elle a cherché, elle a trouvé les infos qui vont dans son sens, elle va les partager avec les gens qui sont d'accord avec elle, et après elle va jeter ces infos à la figure de ceux qui ne sont pas d'accord, pour leur dire « Ah ah, j'ai raison !» Voilà ce qu'on fait de l'info aujourd'hui, et on traite bien sûr ceux du camp opposé de gens moutons manipulés par l'establishment, par les masses médias dominantes qui nous manipulent. Devant Jésus, les Juifs se sont inventés un passé fictif, complètement idéalisé, en disant qu'en fait, finalement, ils n'ont jamais été esclaves de personne. Et aujourd'hui, on fait pareil. Soit on idéalise le monde d'avant avec ses valeurs conservatrices. Ah, c'était bien sous De Gaulle, quand il y avait des vraies valeurs. C'était bien l'Amérique d'avant, l'Amérique chrétienne, blanche. C'était vraiment super, je parle pour l'Amérique. C'était bien les valeurs conservatrices d'avant. Soit on diabolise ces valeurs d'avant. Mais il faut que la réalité colle avec la vérité, avec notre vérité. Pareil avec toutes les données qu'on collecte par-ci, par-là, sur le net. Si elles nous paraissent concluantes, nous qui sommes parfaitement incompétents pour les évaluer, elles sont vraies. D'autant plus qu'elles vont dans notre sens. Nous sommes entrés dans une ère de post-vérité, où l'on écoute ceux qui parlent le plus fort, ceux qui sont d'accord avec nous. On écoute ceux qui répètent en boucle les mêmes choses, plutôt que d'écouter ceux qui savent ceux qui ont fait des recherches sur le sujet, ceux qui sont spécialistes du sujet, mais qui sont beaucoup trop prudents, beaucoup trop nuancés, beaucoup trop mesurés, parce qu'ils savent que la vérité est complexe. La vérité n'est plus ce qui est, mais la vérité est devenue une justification de ce que je crois, de ce que je ressens, car il faut ajouter que nous sommes dans un monde individualiste. Tout comme on veut la liberté individuelle, chacun fait ce qu'il veut du moment qu'il ne dérange personne, on veut aussi la vérité individuelle. Chacun pense ce qu'il veut du moment que ça lui fait du bien. Dans ce monde qui n'a ni queue ni tête, la vraie solution, la solution universelle, ne peut se trouver qu'à l'extérieur de notre monde. Et c'est le point suivant. Face à cette tendance à l'auto-justification, Jésus est très clair. Sa parole est la vérité. Et c'est en acceptant la parole de Jésus qu'on peut devenir libre. Car les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu lui-même. C'est pourquoi ne pas accepter les paroles de Jésus, ne pas devenir disciple de Jésus, c'est vivre de fait dans le mensonge et être esclave du diable. Voilà une affirmation bien catégorique de la part de Jésus. Dans le grand bazar des idées, dans le grand bazar des philosophies, des comportements et des sentiments, Jésus, le Fils de Dieu, siffle la fin des débats pour dire « c'est bon ?» Vous en avez pas marre de pédaler dans la choucroute et de vous chercher continuellement sans jamais vous trouver? Vous en avez pas marre de vous disputer sans jamais trouver de terrain d'entente? Revenez à moi, suivez-moi et je vous ferai connaître la vraie liberté. Le Seigneur Jésus est le seul à pouvoir nous sortir de nos conditionnements, pour nous donner une vraie identité en lui. C'est lui seul qui peut dire ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, car il est Dieu. C'est lui qui a créé les concepts de bonté, de liberté et de vérité. C'est lui le créateur de ces concepts. Il est très bien placé pour les définir. Et non seulement il les a créés, ces concepts, mais il les a vécus sur terre. Il n'a pas utilisé sa liberté et sa grande puissance pour faire ce qui lui plaisait, mais il les a utilisés pour nous servir, pour nous sauver. Alors depuis 2000 ans, l'appel est toujours le même. Remettons-lui toute notre existence. Appartenons-lui en entier afin qu'il nous guérisse en entier de notre esclavage spirituel, de tous nos conditionnements. Par son esprit, il fait de nous des humains transformés. Alors laissons-le agir sur nos angoisses, sur nos colères, sur nos peurs, sur nos traumatismes, sur nos convoitises, sur nos idoles. Laissons-le nous guérir. C'était les paroles d'Ésaïe qu'on a lues en première partie. Laissons-le nous guérir, laissons-nous nous libérer de tout ce qui nous entrave. Et il y a un autre exemple que Jésus donne, et il parle souvent en fait de Abraham, qui est finalement l'archétype du disciple. Si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui, nous dit Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait d'exceptionnel, Abraham? Il a quitté sa culture, il a quitté ses valeurs pour suivre les promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu l'ont amené dans un pays étranger qu'il ne possédera même pas de son vivant. Ces promesses de Dieu l'ont conduit dans des situations très inconfortables. Mais Abraham a compris que cette alliance avec Dieu était la chance de sa vie. Et il a décidé de tout faire pour servir ce Dieu. Il n'était pas parfait, mais il lui a tout remis. Abraham est l'archétype de tous les héros de la foi qui suivront. Ces voyageurs temporaires sur la terre qui ont donné leur vie pour le royaume de Dieu. De telles personnes sont vraiment libres, car bien qu'étant encore sur terre, leur vie est cachée en Christ, est cachée avec le Christ, en Dieu, dans son royaume éternel. Ces personnes, ces disciples, sont vraiment libres, car elles ne font pas de cette liberté qu'elles ont acquise un prétexte pour vivre comme des personnes livrées à elles-mêmes. Au contraire, par amour, elles se mettent au service les unes des autres. Elles n'ont plus ce slogan « moi, 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 je veux qu'on reconnaisse ma liberté ». Non, elles font comme Jésus. Elles sacrifient leur liberté pour les autres. Elles ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Elle manifeste le fruit de l'Esprit Saint, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà ce que font les disciples de Jésus de leur liberté. Ils la mettent au service des autres. Ils ne revendiquent pas leurs droits, ils appuient sur leurs devoirs. Alors voilà, nous ne pouvons pas avoir accès à la liberté, c'est ma conclusion, ou à la vérité. Il faut qu'elle nous soit révélée. Alors suivons Jésus, qui sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous. Notre monde devient complètement fou parce qu'il s'est déconnecté des valeurs de l'Évangile qui lui donnaient du sens. Et maintenant, il est livré à lui-même. Et on n'est pas sorti des ronces. C'est à nous, témoins du Seigneur Jésus, de continuer de proclamer. Venez à lui, vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera du repos. Il est le chemin, la vérité et la vie. Soyez libres, c'est ce que nous pouvons proclamer à nos contemporains. Nous pouvons mener d'autres combats, et ça peut s'avérer utile, mais proclamer ces vérités est vraiment capital. Et comme avec Jésus, ces paroles ne feront pas l'unanimité. Mais, dernière citation de Jésus, nous pouvons proclamer, nous pouvons intégrer ce qu'a dit Jésus. Celui qui appartient à Dieu écoute les paroles de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. L'acceptation ou non des paroles de Dieu, eh bien finalement, est un révélateur de ceux qui sont destinés à être ses enfants, de ceux qui ne le sont pas. Que le Seigneur nous aide à avoir le courage de proclamer sa vérité. Amen. Je vous invite à chanter « Je connais le Créateur du monde ».